Chers frères et sœurs, Noël, c'est merveilleux, n'est-ce pas? D'aucun journaliste dirait, c'est magique. Ces santons de nos crèches, ces chants traditionnels que nous chantons aussi durant cette messe de minuit, ont immortalisé à jamais, dans nos cœurs et dans nos esprits, dans la mémoire de notre cœur, les fameux Noël de notre enfance que nous lisons, tenez, dans l'émerveillement des enfants devant la crèche. Et nous avons besoin de cette image rassurante, attendrissante du nouveau-né de la crèche sous le regard attentif du juste Joseph dans les bras de la Vierge Marie, pour échapper quelques heures aux épreuves et aux contraintes de notre vie présente. Mais Noël, c'est mystérieux aussi. Et il ne faut pas moins que des rites et des chants graves, solennels, profonds, pour entrer dans un tel mystère. Un mystère, tenez, chers frères et sœurs, qui est tragique, non? Au cœur de ce récit, plein de lumière et de joie, que nous venons d'entendre de Saint-Luc, qui nous rapporte cet événement plein de simplicité et de fraîcheur de la nativité de Jésus. Il y a ce verset qui résonne tragiquement dans mon cœur. Écoutez plutôt. Ils étaient à Bethléem. Arrivèrent les jours où Marie devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange. Elle le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Et Saint Jean, dans le prologue de son évangile, nous l'entendrons demain dans la messe du jour de Noël, dira cela avec un langage plus théologique et intemporel, mais qui nous fait entrer si profondément dans ce tragique du mystère de Noël. Il était dans le monde, lui par qui le monde fut créé, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Ce soir, en cette nuit de Noël, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas ne pas penser, au risque de gâcher un peu notre plaisir, à ces chrétiens ici ou là dans le monde, qui risquent leur vie, qui sont menacés dans leur liberté, qui sont persécutés à cause de leur foi. Et je veux ce soir que nous n'oublions pas les chrétiens du Moyen-Orient, ce berceau de notre foi chrétienne, cette terre qui est d'abord une terre chrétienne, et en particulier en Irak, où des chrétiens, des catholiques, sont traqués, contraints à l'exil ou à se terrer. Bien sûr que nous pensons ce soir très particulièrement à cette communauté syriaque catholique, victime le 31 octobre dernier dans la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours à Bagdad, d'un horrible attentat. 60 morts, dont 2 prêtres, alors qu'ils étaient réunis paisiblement pour la messe. Ce soir encore, après l'émotion si vite passée, quels responsables politiques qui ont, comme l'empereur Auguste de l'Évangile, le pouvoir de recenser toute la terre, au niveau national ou international, se préoccupent du sort des chrétiens du Moyen-Orient. Quand l'évêque syriaque catholique de Bagdad recommande ce soir aux fidèles de rester chez eux, de ne pas sortir pour célébrer le mystère de Noël, parce que des menaces de mort ont été à nouveau proférées à leur encontre. C'est vrai qu'il y a eu ces jours derniers un geste courageux de 60 parlementaires français qui ont fait une pétition au gouvernement pour qu'il fasse pression sur les instances internationales afin que la sécurité soit assurée et garantie pour ces chrétiens d'Irak ou du Moyen-Orient pour célébrer le mystère de la nativité du Seigneur. On comprend pourquoi le Saint-Père Benoît XVI a consacré son message pour la Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2011, au thème de la liberté religieuse, chemin de la paix, pierre angulaire de tous les droits humains, socle fondamental d'une société humaine digne de ce nom, où il est possible de vivre en homme raisonnable, juste et religieux, comme disait saint Paul à Tite dans la seconde lecture que nous venons d'entendre. Et le pape ajoute, dans d'autres parties du monde, en particulier dans nos pays de vieille chrétienté, où l'on n'est menacé ni dans sa liberté, ni dans sa vie, et où l'on apostasie si silencieusement et si tranquillement sa foi, on peut connaître aussi, dit-il, des formes plus silencieuses et sophistiquées d'opposition à l'encontre des croyants et des symboles religieux. J'en veux pour preuve ces déclarations au nom de la sacro-sainte laïcité dans notre pays, demandant que l'on supprime tous les symboles chrétiens de Noël de l'espace public, la crèche et le sapin de Noël, signe païen sans doute mais christianisé depuis des siècles, dont les feuilles persistantes signifient quelque chose de l'immortalité, de l'éternité de Dieu qui est entré décisivement dans le temps des hommes. Il est né à notre vie humaine et terrestre pour que nous puissions naître à notre tour à une vie divine, éternel. Le Saint-Père risque même cette affirmation. Les chrétiens aujourd'hui sont le groupe religieux le plus en but à la persécution à cause de leur foi. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Et ce soir, en cette nuit de Noël, après un avant commercial de 4 semaines, appelant de manière insolente à la consommation, à la surconsommation, alors que tant de nos concitoyens sont laissés sur le bord de la route, en situation de précarité, victimes de cette crise économique et sociale dont nous ne connaissons pas la fin, les tenants et les aboutissants. Beaucoup de nos contemporains fêteront Noël en oubliant tout simplement d'inviter celui dont ils célèbrent l'anniversaire, qui sera le grand oublié, le grand absent dans une société devenue amnésique de ses racines chrétiennes, vivant pourtant toujours, au moins en théorie, des valeurs tirées de l'Évangile, le respect de la dignité de la personne humaine, la solidarité familiale et sociale, le partage et la solidarité. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Mais je veux croire, chers frères et sœurs, qu'il y aura cette nuit encore, comme dans cette sainte nuit de Noël de Bethléem, quelques bergers, quelques pauvres hères, capables de reconnaître que leur cœur est lourd et plongé dans la nuit du péché, la nuit du doute, la nuit de la souffrance sous toutes ses formes, pour être attentifs à l'annonce des anges. Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Un sauveur vous est né dans la ville de David, à Bethléem. C'est le Christ, le Seigneur. Je pense à ces détenus, tenez, qui purgent légitimement leur peine, ces justices, auprès de qui j'ai pu célébrer l'Eucharistie pour la fête de Noël, à Bayonne comme à Pau, et qui vibraient à l'annonce de ce message, comprenant d'instinct tant leur cœur est lourd, tant ils sont blessés, pour avoir aussi blessé les autres, sans doute. Mais dans cet isolement carcéral, comme cette bonne nouvelle a résonné dans leur cœur, ils savent d'instinct que cette annonce est celle d'un sauveur, capable, seul, au-delà de toute justice humaine, de toute réparation légitime, de guérir leur cœur, de l'inonder de sa lumière, de leur apporter la guérison, le pardon, la paix, pour être à nouveau des artisans de paix. Serons-nous ce soir, chers frères et sœurs, parmi ces bergers qui ont conscience d'avoir besoin d'un sauveur? Vous avez besoin d'un sauveur, vous? Vous avez besoin d'être guéri dans votre cœur, d'être libéré de l'égoïsme, de l'orgueil, de la jalousie, de la rancœur, de la haine, de la colère? Sans doute que vous l'avez manifesté, ce besoin, en vous approchant de ce beau sacrement du pardon, de la pénitence et de la réconciliation, comme on le fait à l'approche de chaque fête, pour entrer pleinement dans le mystère du Seigneur qui vient dans le monde pour nous visiter, pour nous sauver. Il n'est pas trop tard pour le faire. En ces jours de Noël, si vous avez conscience, comme moi, d'avoir besoin d'être éclairé, conseillé, pacifié, consolé, libéré, guéri, délivré, sauvé, alors entendez l'annonce des anges. À ce signe, vous le reconnaîtrez, un nouveau-né, enveloppé de l'ange, couché dans une crèche. Et les bergers se sont mis en route dans cette nuit froide de Bethléem, et ils sont arrivés devant l'étable où Marie venait d'enfanter. Et ils ont vu ce signe dérisoire du Christ, du Seigneur, du Sauveur que Dieu donne à tous les hommes de tous les temps. Ils se sont prosternés, ils ont adoré. Et de mauvais garçons qu'ils étaient, ils s'en sont retournés en chantant la louange du Seigneur et en apportant ce message de paix qui les avait inondés. À ceci, chers frères et sœurs, qui ouvrez votre cœur, reconnaissant votre besoin d'être sauvé, cette nuit même, vous le reconnaîtrez. Le Dieu vivant, le Christ, le Seigneur, non plus enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire, mais enveloppé des apparences dérisoires, du pain et du vin consacré. Bethléem, la maison du pain, celui qui a dit « Je suis le pain de vie, qui mange ma chair et boit mon sang, aura la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. Ceci est ma vie, donnée pour vous. » Non plus couché dans une mangeoire, mais couché sur l'autel du sacrifice, la mangeoire eucharistique, le festin des noces de l'agneau. Venez, adorons-le, venez, accueillir le corps du Christ, pour devenir ensemble un peuple ardent à faire le bien, dans lequel le Christ, le Verbe incarné, prendra à nouveau chair pour les hommes de notre temps, à travers le témoignage de votre charité, de votre partage avec ceux qui sont les plus pauvres et les plus démunis, en risquant aussi de leur annoncer, comme les anges, cette bonne nouvelle, cette grande joie pour tout le peuple. Un sauveur nous est né dans la ville de Bethléem. C'est le Christ, le Seigneur. Accueillez le Christ qui vous sauve et devenez, tout autour de vous en ces jours de Noël, les témoins de cette paix, les témoins de ce message d'espérance. Soyez les porte-parole du Christ qui veut visiter tous les hommes pour les sauver. Amen.